RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Nous sommes toujours sur les routes suisses en direction de Berne, à 62 km de l'arrivée. On va faire un point sur la course avec toujours deux hommes en tête, on le rappelle, Fred, qui ont une avance stabilisée depuis quelques minutes. Elle reste à 3 minutes pour le moment.
Oui, les deux coéquipiers de la formation Ethics Quick-Step qui font de la résistance sous le soleil du canton de Neuchâtel en ce moment. La course qui est partie de Moirans en montagne tout à l'heure dans le département du Jura et qui s'achève aujourd'hui à Berne, la capitale suisse, la ville de Fabian Cancellara. On surveillera le Suisse maillot blanc et noir de la formation Trek tout à l'heure dans le final. La tête de course à 61 km de l'arrivée, composée des deux coéquipiers de la formation Ethics Quick-Step, Tony Martin, l'Allemand, et Julien Alaphilippe, le jeune tricolore. L'avance de ce duo de tête est stabilisée à 3 minutes et pourtant on ne chôme pas à l'avant du peloton. On fait tout pour rentrer sur ces deux échappés. Mais Tony Martin est bel et bien une machine à rouler, réglée comme une horloge suisse aujourd'hui.
Et oui, la machine continue d'envoyer du lourd, hein, Georges Quirino sur la moto.
Exactement, Tony Martin toujours qui produit de gros relais avec Julien Alaphilippe dans sa roue. Il ne faiblit pas, on a l'impression, l'Allemand. La moyenne depuis le départ de cette étape est de 46,5 km/h pour Tony Martin, qui a même accéléré dans la troisième heure, en tous les cas pour les deux hommes. Il est toujours en position de contrôle à montre, on vous le disait tout à l'heure, avec cette combinaison où il ne peut pas mettre beaucoup de ravitaillement, et donc on voit souvent, on comprend mieux maintenant, David Ebramatis, son directeur sportif, qui vient se porter à leur hauteur toutes les 10-15 minutes, le directeur sportif de l'équipe Quick-Step, qui vient parler à ces deux coureurs, les encourager à l'avant et également leur donner de quoi se ravitailler et se réhydrater. Donc on a vraiment l'impression toujours derrière eux d'être dans un contre-la-montre. Il garde bien la ligne, Tony Martin, bien la position du contre-la-montre jusqu'à Berne peut-être.
Voilà, le peloton qui s'approche du lac de Neuchâtel que l'on a vu tout à l'heure, un des magnifiques lac ici de ce beau territoire suisse. Alors que dans notre camion RMC, figurez-vous qu'un drôle de personnage vient de nous rejoindre. Je ne sais pas s'il est en train d'envahir la Suisse, mais Henri IV vient de nous rejoindre. Ça, c'est quand même original. Bonjour Henri IV. Bonjour, bonjour Sire. Bonjour Monseigneur.
Oui, restons simples. Appelez-moi Henri si vous voulez.
Voilà. Ou le Vergalant, non, je ne sais pas.
Là, si... Le Vergalant, oui.
Le Vergalant. Alors, ce roi de France, habillé comme l'était Henri IV, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne doit quand même pas être facile à vivre avec la chaleur qu'il fait. Henri IV qui fait la promotion de la région. C'est vrai qu'il y a la caravane publicitaire, on a souvent des marques commerciales, mais aujourd'hui, la région dont Henri IV est originaire, c'est-à-dire le Béarn, fait la promotion de sa région. Et vous êtes là, donc, dans la caravane, mon cher Henri, mon cher roi, mon cher Sire, pour faire la promotion de votre région.
Exactement, oui. Et bien, si vous voulez, Catherine de Médicis, en 1564, a décidé de faire un tour de France pour promouvoir la famille royale.
Pas à vélo, hein, pas à vélo.
Non, pas à vélo, à cheval. Ça m'a donné l'idée, justement, d'en faire un à cheval. Et puis, grâce à ma cuisinière qui m'a fait une recette de poule au pot un peu particulière, je suis arrivé au 21e siècle et j'ai vu que vous faisiez ça en vélo. C'est merveilleux. Et voilà. Donc, c'est vrai, j'en profite pour faire la promotion du Béarn, ma région natale, qui est une très belle région et qui a beaucoup d'atouts.
Évidemment. Aujourd'hui, en Suisse, je sais pas si vous avez beaucoup de succès.
Moi. En Suisse, vous savez, ils vont faire la connaissance d'Henri IV. Ouais. Et puis, voilà, ça va. Ils vont peut-être reprendre leur livre d'histoire. Et voilà. On s'aperçoit aussi que même en France, certains me confondent avec D'Artagnan ou même le roi d'Agobert. Alors, il faut que les Français retournent
un peu l'histoire. Il faut ouvrir les livres d'histoire, hein, parce qu'Henri IV, c'est quand même pas le roi d'Agobert. Hein.
Non,
il
n'a
pas mis sa culotte à l'envers.
Non, non.
Hein bon, en tous les cas, c'est une bonne façon de faire la promotion de sa région. Je crois que vous êtes les seuls dans la caravane à faire la promotion de nos régions. Peut-être qu'un jour, les Corses viendront avec Napoléon.
Mais pourquoi pas, ça serait bien, ça serait une bonne idée. Mais en tout cas, on a un très bon retour du public. Le public scande le Béarn tout au long de la route du Tour de France. Scande Henri IV, mais ça c'est secondaire, c'est surtout pour le Béarn. Bon. Et ça nous fait chaud au cœur.
Bon, j'imagine que vous êtes comédien à l'année.
Oui, c'est
ça. C'est la première fois que vous faites le Tour de France.
Oui, et je vous avoue que c'est un rêve d'enfance, puisque j'ai toujours suivi le Tour de France depuis ma naissance, enfin un peu plus tard. Et puis, c'était un rêve de faire le Tour de France de l'intérieur. Ça m'arrive cette année, merci le Béarn. et j'en suis ravi.
Voilà, en plus Henri IV est un auditeur d'RMC. Hein,
oui, en plus,
il a des jambes de cycliste.
C'est vrai. J'ai fait du vélo quand j'étais plus jeune.
Pour quelqu'un qui fait le Tour de France à cheval, voilà, c'est
des jambes qu'on devine puisqu'il est effectivement habillé comme à l'époque avec un magnifique collant blanc. On voit les poils quand même en dessous.
Oui, mais là j'ai mis le collant léger aujourd'hui puisque il fait un peu chaud.
Bon, faut faire attention parce que Henri IV avait quand même une sacrée réputation de coureur.
Mais et ça, je m'en aperçois vraiment parce que tout le monde en parle.
Ouais, d'accord.
J'irai pas jusque là, mais bon. Non, en tout cas, c'est un plaisir. Et puis merci de m'avoir reçu.
Eh ben, écoutez, c'est un plaisir.
C'est très agréable.
Il y a beaucoup de comédiens qui sont accros du vélo et amoureux du Tour de France. D'artistes en général.
Mais même qui accompagnent le Tour de France. On voit au village départ, il y a beaucoup de spectacles qui sont proposés. Et pour les comédiens, c'est une façon comme une autre aussi.
Absolument. Oui, et puis le sport et le théâtre et la culture, c'est quand même, ça peut être très proche. On peut aimer les deux.
Et puis il y a des coureurs qui sont d'excellents comédiens aussi. On en a bien connu par le passé, qu'il s'appelle Guimard, Lance Armstrong ou Fabien Cancellara dont on parlait il y a quelques instants. Oui. Thomas Vauclair est également très bon devant les caméras. Artiste de la grimace, Thomas Vauclair, qui lui aussi peut-être tirera sa retraite à la fin de la saison, tout comme Cancellara qui, on le rappelle, arrive chez lui aujourd'hui à Berne au terme de cette 16e étape.
Merci Monseigneur, on vous souhaite un bon retour sur vos terres dans quelques temps. On va passer quand même quelques jours en Suisse. Oui. N'envahissez pas trop la Suisse
Totalement pacifique.
Merci en tous les cas.
Merci messieurs.
À bientôt et bonne fin de Tour de France.
Merci,
55 km encore à parcourir et ils font de la résistance, nos deux éthiques Quick-Step, Fred.
Oui, Tony Martin et Julien Alaphilippe, les deux coéquipiers, le duo franco-allemand qui est en train de réaliser un mini contre-la-montre par équipe. Ils ne sont que deux de la formation belge au maillot bleu et noir. Et les deux hommes de tête à 55 km de l'arrivée comptent une avance stabilisée à 3 minutes. Et c'est évidemment l'ancien triple champion du monde du contre-la-montre, Tony Martin, le Panzer, qui emmène dans sa roue Julien Alaphilippe, le Panzer sur la route. Ce sera dur tout de même pour ces deux coureurs de rallier victorieusement Berne, parce que les équipes de sprinteurs ont coché cette étape suisse, puisqu'a priori c'est la dernière opportunité pour les sprinteurs de s'imposer sur une étape du Tour avant bien sûr l'ultime étape dimanche prochain aux Champs-Élysées.
Allez, il est l'heure de faire les paris RMC, il est 16h12.
Les paris RMC.
BMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Et c'est Benoît Boutron qui nous accompagne aujourd'hui. Salut Benoît.
Salut Christophe, bonjour à tous.
Alors on va rappeler les pronostics de la Dream Team et on va voir si les cotes ont changé avec cette échappée au long cours. Tout d'abord les pronostics, mon cher Benoît.
Eh bien, tir groupé de notre Dream Team pour Michael Basini. C'était un coup tenté hier soir par Bourgui, Pinot et Benji, Jérôme Pinot évidemment. Et puis toi Christophe, tu as tenté Sagan. Sache que c'est le favori de l'étape désormais, Peter Sagan. 2,95 pour lui. Je rappelle le pari du druide Cyril Guimard. Michael Matthews, évidemment ça a changé. Les bookmakers ne croient pas à une arrivée en solitaire des deux membres de l'équipe Quick-Step. Donc ils voient les sprinteurs gagner. Sagan en 1, Christophe en 2, c'est 5,80. Cancellara en 3, chez lui en Suisse, 9,50. Cocard qui est à 10, pourquoi pas, ça peut être un bon coup. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Vous changez votre pari ou vous pensez que Albasini peut créer la surprise?
Jérôme. Moi, je pense qu'il peut créer la surprise. Il va.
Côté à 30, désormais.
On va rentrer dans un final pour puncher. Il est très doué dans cet exercice-là. Et surtout, comme je disais hier soir, c'est un coureur qui gagne. La plupart de ses succès ont eu lieu en Suisse. Il va être très motivé aujourd'hui. Donc, je reste sur Albasini.
30 pour Albasini, quand même.
Fred, tu nous as pas donné ton pronostic hier soir.
Vous connaissez mon penchant pour le romantisme. Je vois bien Fabian Cancellara au moins tenter sa chance, déboucher comme il l'avait fait il y a quelques années à Compiègne, notamment, nous faire le coup du dernier kilomètre. C'est vrai que le final est assez tortueux. Si c'est le Cancellara des grandes années, ou des grandes heures, ce sera difficile. S'il fait le break ne serait-ce que sur 10 mètres, ce sera difficile de rentrer.
Ouais, et on va évoquer le final tout à l'heure qui pourrait lui correspondre. Hein. Cyril, tu gardes ton pronostic hier?
Matthews, oui, je le vois pas se faire décrocher ou être en difficulté dans le final. Et surtout être peut-être plus économique que les autres sprinters qui vont peut-être plus souffrir dans les deux dernières difficultés.
Bon, en tous les cas, personne ne voit Tony Martin ou Alaphilippe s'imposer tout à l'heure. Hein, Jérôme, c'est donc voué à l'échec cette histoire-là.
Oui,
même pas un peu moins de 3 minutes maintenant.
C'est voué à l'échec, mais encore une fois, il va falloir s'employer, il va pas falloir se regarder, il va falloir continuer sur ce rythme-là. Pour l'instant, on n'est pas moins de 4 équipes en tête de peloton pour aller chercher Tony Martin et son associé dans ce numéro, Julien Alaphilippe. Mais on ira poser la question ce soir aux 4 ou 5 coureurs qui ont chassé toute la journée et aux coureurs du peloton. Ils vous diront tous un truc.
Voilà.
Ouf, aujourd'hui c'était chaud. On savait qu'il y avait Tony Martin devant parce que ça n'a pas ralenti de la journée. Et les coureurs qui chassent derrière Tony Martin s'emploient, je peux vous dire, à 100%.
Oui, il y a
46,5 de moyenne quand même pour les deux hommes de tête.
46,5, ouais, c'est pour, sur les 3 premières heures de course. C'est de la folie, le rythme imprimé par Tony Martin et Julien Alaphilippe accessoirement. Mais c'est exclusivement, quasi exclusivement, majoritairement en tout cas, Tony Martin qui imprime le rythme. C'est vrai qu'à mon avis aujourd'hui il y a bien 150 coureurs qui maudissent Tony Martin de s'être glissé dans l'échappée, parce que du coup ça ne débande pas, ça ne décroche pas comme disent les coureurs, et du coup le peloton est en file indienne depuis 2 heures maintenant. On ne laisse pas partir ce duo de tête.
Parmi les équipes qui chassent derrière les deux fugitifs, on a l'équipe BMC qui a réagi très vite, l'équipe BMC de Greg Van Avermaet, qui peut envisager une victoire d'ici. Vous savez, ici on arrive au pied du stade du club de Berne, et le stade du club de Berne et le stade et le club
de la Nati
appartiennent
aussi, je crois,
à qui? Appartiennent, messieurs, à Andy Ries, le patron de l'équipe BMC.
Ah,
donc double objectif pour cette équipe.
Greg Van Avermaet, qui était avant d'être coureur cycliste professionnel, un excellent footballeur.
Exactement, un excellent gardien de but, oui, qui a été même dans le giron d'un club professionnel en Belgique avant de choisir le vélo.
En tous les cas, le peloton est en avance sur les meilleurs horaires possibles. On nous annonçait donc 17h39 au mieux. Et bien, ce sera probablement aux alentours de 17h15 pour cette victoire, pour cette arrivée tout à l'heure de peloton. Merci Benoît,
à tout à l'heure.
La suite des paris, évidemment. Allez, 51 km de l'arrivée et l'écart qui se réduit quelque peu, avec toujours cette même physionomie et ce Tony Martin qui ne désarme pas, Fred.
Oui, les avant-bras posés sur le cintre en haut du guidon, façon position de contre-la-montre la plus aérodynamique possible. La force de Tony Martin qui depuis 3 heures maintenant emmène un développement oscillant entre le 54-11 et le 54-15. Ça parlera aux spécialistes. La puissance de Tony Martin qui doit tourner à environ 65-70 tours de pédale par minute. Là aussi, les spécialistes apprécieront. Derrière, il y en a un qui fait de la patinette. C'est son équipier, Julien Alaphilippe, qui a même du mal à faire de la patinette.
La patinette, oui. Allez voir.
Alors,
sur les réseaux sociaux.
La patinette, ce que ça veut dire, la patinette.
La patinette, c'est être dans la roue, dans le sillage du coureur qui vous précède. Et on ne passe que très peu de relais, donc il suffit de le suivre. Et quand c'est un coureur lambda, on fait de la patinette, donc ça veut dire qu'on s'économise, on le suit tout simplement, et on est là un peu en mode promenade. Mais derrière Tony Martin, c'est pas vraiment le cas. Et allez voir même sur les réseaux sociaux, il y a sur le Twitter du Tour de France, il y a une vidéo où Julien Alaphilippe regarde le caméraman et lui dit: c'est complètement fou dans le sillage de ce coureur, qu'est-ce que je suis venu faire là? C'est assez drôle comme image. Julien qui s'est embarqué dans une bien drôle d'aventure aujourd'hui.
Et oui, après avoir laissé échapper la victoire d'étape hier, il voulait sans doute montrer qu'il était un bon coureur du Tour de France, un très bon coureur, et on le sait de toute façon que c'est un futur grand champion, on l'espère en tous les cas, Julien Alaphilippe. On va poursuivre notre petite musette puisque tout le monde ne s'est pas encore exprimé. On va remettre un petit coup d'accordéon et on va aller à l'avant de la course justement avec Georges Quirino, qui n'a pas eu le temps de nous livrer ses petites informations musettes. Georges, c'est à toi.
Exactement, j'ai bien attrapé ma musette. Il y a plusieurs choses dedans, au moins 3 petites choses aujourd'hui dans la musette. Déjà, Christophe, tu me permettras juste de souhaiter un bon anniversaire à ma maman qui nous écoute tous les
mais
jours.
Mais bien sûr, bon anniversaire Madame Quirino.
Carmen, feliz cumpleaños pour aujourd'hui. Ça va redonner le sourire à, au moins j'imagine, parce qu'elle est à Nice et toute la ville est un peu endeuillée en ce moment. Ma musette, 2 petites choses, 2 petites fêtes on va dire, chez Yam Cycling. déjà Jarlinson Pantano qui a gagné hier le Colombien, qui a été fêté par énormément de supporters colombiens. Ils sont toujours très nombreux tout le long du Tour de France. Et hier soir, pour le retour à l'hôtel, ils ont sabré deux bouteilles de champagne pour fêter ça. Et il y a même eu une victime de cette fête. J'ai pu avoir l'information ce matin en parlant avec les YAM. C'est le directeur sportif Lionel Marie qui s'occupe surtout des VIP sur ce Tour de France, qui a eu la mauvaise surprise de voir Jarlinson Pantano arriver derrière lui pour lui raser la tête. Il lui a rasé la tête intégralement pour fêter sa victoire. Jarlinson Pantano, donc, qui est aussi un bon blagueur, celui qui est un des meilleurs amis de Nairo Quintana. Et puis deuxième fête, visiblement ils sont bien tranquilles, hein. Nos amis chez Sky, Christophe, il faut regarder les comptes Twitter, notamment ce Truth Room et de l'équipe Sky. Hier, quand ils sont rentrés dans leur bus, on a vu les coureurs Sky s'adonner à un striptease, hein, Waterpools notamment, en train de danser après l'étape. Visiblement ils n'étaient pas très fatigués, hein, vu qu'ils n'ont pas été attaqués par les coureurs. Et ce matin encore, on est passé devant le bus Sky, on a entendu la sono à fond, et on a écouté, j'espère que c'est prêt à parer, on entendait cette musique à fond au moment où on passait et au moment où Christopher Froome est sorti du bus. Écoutez cette musique. Call on me, c'était la boîte de nuit pour Chris Froome qui est sorti le maillot jaune tout à l'heure du bus. Donc c'est la fête chez Sky, ouais. Christophe.
Et je sais que chez Sagan aussi, on aime bien mettre un peu de musique le matin avant l'étape, ou en tous les cas avant les classiques, hein. Une tradition.
Avant les classiques, exactement. Peter Sagan, à chaque fois qu'il sortait du bus de l'équipe Tinkoff, il mettait la musique de Star Wars pour lui. La musique du générique, il sortait comme ça, les bras ouverts, comme s'il était Luke Skywalker. C'était génial.
Bon, ben nous, on préfère notre petit accordéon personnellement. Hein. Nous, on a l'accordéon. Voilà,
on se déhanche pas mal sur l'accordéon. Je ne sais pas ce que vaut Chris Froome sur cette musique techno, mais nous, sur l'accordéon, on est pas mal. En parlant de fête, messieurs, je vous invite à regarder votre calendrier.
Bonne fête, Fredo, évidemment.
Il faut réclamer pour tout ici.
Non, mais attention, le Tour de France, c'est une tradition. Il y a l'anniversaire de Fred en début de tour, et en troisième semaine, c'est sa fête. Donc, ça nous coûte très cher.
C'est sa fête pendant 3 semaines, Fred. C'est sa fête pendant 3 semaines sur le tour.
Très bien, la musette qui va se poursuivre dans un instant avec Cyril Guimard. Ce sera juste après une petite interruption, Fred. Juste un mot quand même sur l'écart entre les deux hommes de tête et le peloton.
Oui, il est en train de chuter assez dangereusement pour les deux hommes de tête, Tony Martin et Julien Alaphilippe, qui ouvrent la route depuis le début de cette étape marathon. 209 km entre Moirans en montagne dans le Jura et Berne, la capitale de la Suisse. 47 km à parcourir, et Tony Martin et Julien Alaphilippe ne compte plus que 2 minutes 10 d'avance sur un peloton en file indienne. On s'emploie vraiment, le peloton qui est réparti sur plus de 150 mètres, 200 mètres même. Moyenne de l'étape sur les 3 premières heures, 47,4 km/h de moyenne. Le rythme imprimé par le triple champion du monde Tony Martin, le triple champion du monde du contre-la-montre, est proprement ahurissant aujourd'hui.
Voilà, et si le rythme reste ce qu'il est, qu'il a été jusqu'à présent, eh bien le peloton arrivera dans une heure pile sur la ligne d'arrivée à Berne. À tout de suite pour vivre justement ce final, cette dernière heure de l'intégral tour.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Le peloton sur un rythme endiablé pour cette 16e étape du Tour de France. On vous le disait il y a quelques instants, 47 km 400 de moyenne depuis le départ de cette étape tout à l'heure à Moirans en montagne et en direction de Berne, où le peloton devrait arriver d'ici une heure maintenant, puisqu'il reste 45 km à parcourir, Fred, avec toujours cette physionomie et nos deux hommes de tête, nos deux coéquipiers de la formation Etix Quickstep, échappés depuis très longtemps et qui ne mollissent pas en route.
Non, mais ça ne suffit pas. Tony Martin et Julien Alaphilippe à 45 km de l'arrivée, effectivement, qui voient leur avance faiblir, diminuer le peloton en file indienne. On entre bientôt dans le canton de Berne, on se rapproche de l'arrivée. Les coureurs qui étaient sur les routes du canton de Neuchâtel jusqu'ici, moins de 2 minutes 1:57 au dernier pointage pour les deux hommes de tête, les deux coéquipiers de la formation Etix Quickstep, Tony Martin, le solide rouleur allemand qui fait un numéro aujourd'hui, et Julien Alaphilippe, le puncher tricolore âgé de 24 ans qui veut se racheter de sa frustration d'hier dans la descente du Grand Colombier, cinquième de l'étape de Culoz hier, alors qu'il avait manifestement la victoire dans les jambes. Julien Alaphilippe qui a fait parler l'orgueil aujourd'hui et qui a emmené Tony Martin dans sa galère, à moins que ce ne soit l'inverse, à moins que ce soit Tony Martin qui a emmené Julien Alaphilippe dans sa galère. 44 km à parcourir avant l'arrivée, très technique, très escarpée ici à Berne.
Et Jérôme, est-ce qu'on sort indemne plus exactement d'une telle aventure aujourd'hui? Heureusement demain c'est la journée de repos, mais ça reste dans les jambes un moment quand même ce genre de...
Non, pas trop. Demain c'est repos, ces coureurs là sont en très grande forme, s'ils peuvent faire ce genre de numéro c'est qu'ils sont en forme, ils seront demain au repos, donc effectivement on peut se poser la question si Julien va pas payer tous ces efforts là dans la troisième semaine, mais on disait aussi qu'il allait coincer au bout d'une semaine, donc finalement il est toujours assez surprenant ce jeune coureur français. Et bon, après une bonne journée de repos il sera certainement à l'attaque sur les prochaines étapes des Alpes, j'en doute à aucun moment.
D'accord, il est en pleine forme depuis le départ de ce Tour de France, il a eu un petit coup de moins bien quand même au milieu du Tour après un départ en fanfare, mais là c'est vrai qu'il est revenu en grande forme depuis 3 jours maintenant. On va poursuivre notre musette, on a oublié notre druide, on va donc lui remettre un petit coup d'accordéon et lui demander ce qu'il a ramené comme petite info aujourd'hui. Cyril.
Oui, je vous écoute. Oui, je voulais juste rectifier une petite chose que Fred a dit tout à l'heure, que notre ami Tony Martin était à 65-70 tours minute. En pratiquement toute sa progression se fait entre 90 et 95 tours minute.
Tu as les données ou pas?
Parce que je les calcule.
Ok, au moment où j'en parlais, il me semblait bien que c'était quasiment...
Il devait être à peu près à 92.
Ok, alors là je m'incline.
Tu peux pas lutter contre le druide là, il calcule tout.
Je vais peut-être encore froisser quelques...
Tu vas nous parler des moteurs peut-être, non?
Oui. Oui, bah vous savez que hier j'avais parlé de cela en disant on regarde que les masses et on va pas chercher les champs magnétiques et il semble qu'on pèse pas les roues ni le cadre. Eh bien... je sais pas, j'étais en avance de 24 heures puisque aujourd'hui ça a fait une double page dans le journal L'Équipe avec entre autres, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, une interview de Greg Lemon et qui disait rien de pire que le doute. Et effectivement, le doute, je suis désolé de le dire, mais le doute persiste. Vous savez que hier soir, il y a une équipe qui a été contrôlée. Et cette équipe a été contrôlée, tenez-vous bien, 30 minutes après l'arrivée. Et donc les émissaires chargés de ce contrôle sont venus 30 minutes après, mais sans jamais être présents entre l'arrivée des coureurs et le moment où ils ont fait le contrôle. Pire que ça, ils ont juste passé la tablette sur le parking, au-dessus de la voiture. Alors... ça paraît quand même très bizarre, parce que entre le moment où vous arrivez et 30 minutes après, si vous aviez un moteur dans le vélo, je peux vous dire que le vélo, il est plus là. Que d'autre part, prendre juste la tablette et la passer à côté des vélos sur une galerie, ça me paraît quand même, je l'ai vu faire, c'est quand même plutôt très primaire. Donc je suis désolé, hein, et l'information de la façon dont ça s'est passé m'est arrivée à 15h36 tout à l'heure. Donc là, je remets en doute vraiment, vraiment, la façon dont on cherche à trouver. Lemon a raison, rien de pire que le doute. Je crois que le doute continue et je ne suis pas certain qu'on n'est pas tout simplement en train de nous enfumer avec une grande campagne de communication au départ du Tour. Mais je crois que malheureusement, sur ce Tour de France, on ne cherche pas.
En tout cas, on dessert effectivement l'image du cyclisme. Si effectivement ces contrôles sont effectués de la même manière chez toutes les équipes, avec une demi-heure de retard sur l'arrivée, effectivement, ça donne tout loisir à n'importe quel mécano.
Sans chaperon, sans rien. C'est juste un type qui vient, qui passe la tablette le long, et puis les vélos sur la galerie, pas en bas. Hein. On les pèse pas, on regarde rien, on regarde pas les roues. Or, oui, on sait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans les roues.
Il y a mieux à faire, il y a mieux à faire effectivement en termes d'image, ne serait-ce que d'image. On ne parle même pas des résultats de ces tests, mais effectivement aujourd'hui, on a déjà eu l'occasion de le dire sur cette antenne, l'image du cyclisme est gangrénée non plus par le dopage biologique, mais bel et bien par cette éventuelle fraude technologique dont on attend toujours les preuves tout de même.
Alors Georges Quirino justement voit comment les commissaires de l'ICI procèdent, je crois Georges, le matin avant le départ de l'étape, ouais. ou même en cours d'étape avec les caméras les thermiques.
Ouais. Et même à la fin des étapes, effectivement, on voit ce balai tous les jours. Il y a des équipes qui sont parfois contrôlées, enfin tous les jours, qui sont contrôlées juste après la ligne d'arrivée, hein, aussi. Hein, il faut le savoir. En fait, c'est le commissaire principal de l'UCI qui vient avec trois ou quatre personnes avec lui qui sont également engagées par la Fédération internationale, qui sont avec les tablettes et ils vont ensemble en groupe à quatre ou cinq vers une équipe pour faire les contrôles, passer cette tablette sur les cadres, sur les roues également. Moi j'ai vu tous les jours les tablettes passer sur les roues. Alors après ils vont comme ça en fait d'équipe en équipe, donc peut-être qu'il y a les équipes qui sont contrôlées effectivement plus tard parce que ils restent toujours ensemble, ces commissaires de l'UCI. Ils ne vont pas à plusieurs endroits en même temps, on va dire. Donc en tous les cas on les voit clairement à l'œuvre depuis le début de ce Tour de France. Quant à l'efficacité, ça évidemment on peut se poser parfois des questions, et d'ailleurs même certaines équipes hein, qu'on a interrogées, certaines équipes cyclistes et des directeurs sportifs n'ont pas caché que en fait ils en savaient vraiment rien en fait véritablement si l'efficacité était réelle de ces contrôles.
Très bien. Est-ce que oui, les tablettes, enfin pas les tablettes, les
caméras thermiques.
Les caméras thermiques sont toujours à l'échelon course?
Oui, elles sont toujours à l'échelon course. On les voit tous les jours ou presque. Quand on va pas dire qu'on regarde à chaque fois, hein, mais on voit très souvent le commissaire de l'UCI qui est dans sa voiture verte, dans sa moto verte, avec la caméra qui parfois s'arrête pour faire quelques plans. Après, voilà, l'efficacité aussi là, on n'est pas expert dans le domaine, mais en tout cas ils sont présents. Est-ce que c'est de la communication ou pas? Ils sont là.
Mais messieurs, pas de contrôle positif sur ce tour. Et pas de moteur détecté dans les vélos. Peut-être que tout simplement il n'y a pas de tricheur sur ce tour. Peut-on envisager à un moment donné où le Tour de France et le cyclisme professionnel sera propre? Peut-être que c'est la première année où voilà, il n'y a pas de triche. On peut aussi imaginer ça. Pourquoi aller
ce
chercher
le tour du renouveau cette année, c'est ça?
C'est le 15e tour du renouveau, mais enfin peut-être magnifique. Cette année, voilà, tout simplement il n'y a peut-être pas. Alors, peut-être que était simplement un fantasme ce moteur, ne sait-on jamais.
Tu le dis avec
mais j'y crois. Moi je crois que ce que je vois, et finalement il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle positif et il n'y a pas de moteur dans les vélos, donc tout va bien. Et en plus on n'a pas vu d'image flagrante, sinon l'autre jour Chris Froome serait passé par-dessus la moto qui se serait arrêtée et voilà,
on aurait volé,
bien sûr. Volant et tout.
Voilà. Non, Pascal Chanteur, le patron du syndicat des coureurs français, a de quoi se faire du mouron. J'ai l'impression que Jérôme Pinault est en pole position pour prendre sa succession. Tu as la fibre, hein.
Je n'aspire pas. Ça,
non, ce que je voudrais savoir quand même, c'est si les tablettes et les caméras thermiques sont passées sur le corps de Tony Martin ce matin, parce que c'est lui le moteur, c'est lui la machine aujourd'hui sur les routes de cette 16e étape. On vous rappelle la présence à l'avant d'un duo, un duo de l'équipe Etix Quickstep, l'allemand Tony Martin, extraordinaire rouleur, posé tel un chronomane aujourd'hui, les avant-bras posés sur le haut du guidon, sur le cintre. On est à 38 km de l'arrivée et Tony Martin emmène toujours dans sa roue confortablement Julien Alaphilippe. Attention, l'avance des deux hommes est en train de dangereusement diminuer. 1 minute 10 au dernier pointage sur un peloton en file indienne occupé tout au long de la journée.
Georges, je voulais ajouter un mot.
Oui, et Jérôme l'a dit très rapidement tout à l'heure. Oui, il est comparé à une machine, hein, Tony Martin. L'image tout à l'heure de Julien Alaphilippe qui s'amusait avec la caméra en disant mais qu'est-ce que c'est que ce mec devant moi qui va à une telle vitesse? Et en fait, au moment où il a fait ce geste à la caméra, Julien Alaphilippe, à côté de lui, il y a un train qui passait à toute allure. Et en fait, il a montré le train en disant regardez, genre, pour faire la comparaison entre le train et Tony Martin qui était devant lui. Donc même Julien Alaphilippe Philippe, comme le disait Jérôme tout à l'heure dans cette image qu'il avait vue, s'amuse effectivement de la machine, de la machine Tony Martin devant nous qui fait bien marcher la moto RMC également aujourd'hui.
Et oui, elle chauffe la moto RMC derrière Tony Martin, mais il va falloir bientôt passer devant les deux hommes échappés parce que leur avance continue de descendre. Très bien.
On a vu en début d'étape, Christophe, quand les deux coureurs avaient à peine 40 secondes d'avance, un vrai conciliabule entre et Tony Martin et la voiture ETX Quickstep. Apparemment, on a demandé à Tony Martin de se relever en début d'étape quand l'écart ne creusait pas et qu'on n'était que deux finalement à l'avant. Tony Martin a refusé. On le sait, en ce moment, c'est la période des transferts et on annonce Tony Martin partant de cette équipe ETX. Alors, a-t-il tout simplement décidé de se la jouer en freelance, à faire un peu ce qu'il veut aujourd'hui sur les roues du Tour? C'est fortement possible parce que ça ne correspond pas à la tactique et au sens tactique de l'équipe ETX.
Et Patrick Lefebvre va s'arracher les cheveux, hein, énervé le boss. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit complètement convaincu.
Pour rien vous cacher, je communique un peu avec lui. Je crois qu'il est pas très content de la tactique du jour.
Ah bon,
il semblerait qu'il soit pas ravi. Parce que dans cette équipe,
Bramati va encore se faire
dans cette équipe, Cyril Guimard s'y trouverait parfaitement parce que le panache, on s'en fout. Il faut gagner, il faut des résultats. J'ai envoyé un petit message à Patrick pour dire que c'était un joli numéro. Il m'a dit oui, mais sans résultat. Et oui, ça va grincer, je pense, du côté de Patrick Lefebvre. À moins que Marcel Kittel aille s'imposer aujourd'hui.
C'est l'option 3 de l'équipe ETX Quickstep. Effectivement, aujourd'hui, il y a parole au rouleur Tony Martin, parole au puncher éventuellement Julien Alaphilippe s'il lui reste un peu d'essence dans le réservoir, et parole au sprinter en dernier ressort dans cette équipe managée par notre cher Patrick Lefebvre.
Tiens, Fabrice sur le hashtag RMC Live nous dit: deux immenses conneries de Julien Alaphilippe en deux jours, ça commence à faire beaucoup.
Il apprend, c'est le métier qui rentre, Cyril.
Non, mais vous connaissez ma position par rapport à ça.
Oh, il veut plus jouer. Vas-y, Cyril, joue un peu.
Non, mais Alaphilippe, il avait une chance éventuellement d'être sur le podium ce soir compte tenu du final. Au lieu de ça, il fait effectivement une étape de panache. C'est bien, c'est formidable, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Et là, en plus, bon, il va récupérer, mais vous savez que dans le Tour, contrairement à ce qu'on pense, l'étape de repos, tout le monde se repose aussi. Donc les autres coureurs vont autant se reposer que Alaphilippe. Et de toute façon, tous les efforts s'additionnent. Je n'en connais pas un qui vient en déduction. Donc l'étape qu'il fait aujourd'hui après celle qu'il a fait hier, eh bien, va l'entamer un peu plus pour les quatre derniers jours de montagne. Et puis son tour va sans doute s'arrêter là. Alors qu'il avait la possibilité hier, éventuellement en courant bien, de gagner. Et peut-être même aujourd'hui, avec les jambes qu'il a aujourd'hui, oui, dans les deux derniers kilomètres, il pouvait jouer.
Tenez, un petit message personnel à destination, longue destination, lointaine destination. Un certain Thierry Humberti nous a envoyé un petit message tout à l'heure. Thierry Humberti qui nous accompagnait sur les routes du Tour pendant de très nombreuses années, qui était notre technicien, mais qui a choisi de partir en Nouvelle-Zélande. Il est bien là-bas, chez les Kiwis, et il nous écoute. Là, je sais pas quelle heure il est en Nouvelle-Zélande. Il est très tard dans la nuit et il continue de nous écouter. Tu vois, il peut pas se passer de nous, Fred. Hein,
ouais, Titi qui a des nuits apparemment bien occupées.
Ah oui, ça. Il a toujours des nuits très très occupées, notre Titi national, donc Titi international, ouais, maintenant
Titi qui s'est mis sur le créneau asiatique, semble-t-il, hein. ça lui change.
Oui, ça le change effectivement. Allez, 34 km de l'arrivée, Fred, on fait un nouveau point, plus qu'une grosse minute d'avance pour l'incroyable train Tony Martin.
34 km 300 à parcourir dans cette longue étape. Attention, on approche de la seule difficulté de la journée, une côte classée en quatrième catégorie, la côte de Mühleberg, avec des pentes à seulement 5%. Ce ne sera pas grand chose et c'est un obstacle que peut passer Tony Martin, le grand bonhomme du jour pour l'instant, le Panzer allemand, l'extraordinaire rouleur de l'équipe ETX Quickstep, qui est accompagné de son coéquipier Julien Alaphilippe. Ces deux hommes à 34 km de l'arrivée à Berne ici compte une avance qui est stabilisée autour de la minute, 1 minute 10. Ce sont les équipes de sprinter, les Tinkoff de Peter Sagan, les Cofidis de Christophe Laporte, mais aussi les Direct Energy d'un certain Brian Cocard qui mène la chasse, relayé à l'instant par les Katyusha d'Alexander Christophe, toujours Fanny sur ce Tour de France, le Norvégien. Les BMC sont là également pour faire triompher leur puncher Greg Van Avermaet.
Eh bien, on va se quitter quelques instants, il est 16h39, on revient sur cette sur ce final de la 16e étape du Tour de France dans quelques instants. À 33 500 km, on va s'intéresser justement au final pour le moins tourmenté de cette 16e étape, l'arrivée à Berne dans moins d'une heure maintenant. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Plus qu'une minute pile poil d'avance pour nos deux échappés au long cours. Tony Martin et son coéquipier de la formation ETX Quick Step, Julien Alaphilippe. 57 secondes très exactement pour les deux hommes qui sentent le souffle chaud du peloton. Fred, qui est en train de revenir à grandes enjambées derrière eux.
Oui, on est en train de changer de type de route tout de même. Après de longues lignes droites dans les traversées de Neuchâtel, de Thiel, de Anet, eh bien on est en train de prendre des routes un peu plus escarpées. Cap sur la côte de Mühleberg, la seule difficulté répertoriée au Grand Prix de la Montagne. C'est Julien Alaphilippe qui en profite pour prendre un relais à Tony Martin. Cette fois, les deux coéquipiers de la formation ETX Quick-Step qui font un numéro devant. Mais on peut penser à la réaction quand même du manager de l'équipe belge, Patrick Lefebvre, qui doit commencer à bouillir parce que les espoirs sont en train de s'amenuiser pour ces deux coureurs. 31 km à parcourir et l'avance des deux hommes de tête n'est plus que de 53 secondes avec un final aussi technique et escarpé que cette arrivée à Berne. Ce sera très très compliqué pour Alaphilippe et Tony Martin de résister au retour du peloton et des équipes de sprinteurs.
Et oui, malheureusement Cyril, la messe est quasiment dite pour Alaphilippe et Tony Martin qui ne vont pas pouvoir résister au retour du peloton. Hein.
Oui, enfin la messe n'est pas dite, on est à la fin de la messe. Il y a longtemps qu'elle a été dite, la messe, je crois, à partir du moment où on a mis en route, alors qu'il y avait 5 minutes et qu'on a vu 4 ou 5 équipes qui commençaient à tourner en tête de peloton, on savait très bien que cette échappée ne pouvait pas aller au bout. Alors la question, c'est toujours la même. Pourquoi insister dans ces conditions et de se faire encore 150 bornes devant? Je n'ai pas la réponse.
Mmh. Oui, bon, que faire? Mais bon, un jour ça va bien finir par marcher. Les échappés vont peut-être finir par arriver au bout.
Il y a une question qui mérite d'être posée tout de même. Pendant de longues dizaines de kilomètres dans la première moitié de l'étape, ces deux hommes de tête, Tony Martin et Julien Alaphilippe, ont su qu'il y avait une contre-attaque qui se dessinait derrière eux deux. Une contre-attaque qui est revenue à 1 minute 15 écart minimal. Une contre-attaque avec, alors bien sûr, c'était des deuxièmes voire des troisièmes couteaux, l'américain Craddock, le hollandais Rosen, le norvégien Vegard Brin et le français Nicolas Hédet de l'équipe Cofidis. Si d'aventure ils avaient attendu ces quatre-là, ils auraient pu peut-être espérer aller plus loin, nourrir des espoirs plus grands. Pourquoi Tony Martin et Julien Alaphilippe se sont entêtés à rester à deux? À six, ils ne seraient pas allés plus vite qu'à deux? Je ne fais que poser une question.
Oui, non, ils seraient allés plus longtemps, c'est-à-dire qu'à la même vitesse, ils pouvaient durer beaucoup plus longtemps et surtout avoir une capacité d'accélération, on va dire, dans les 30 derniers kilomètres. Et surtout Tony Martin, si Tony Martin s'était un petit peu plus économisé en tournant à 6 plutôt qu'à 2, là il aurait été capable de sortir à ce moment-là et peut-être d'aller tout seul à l'arrivée. Mais le problème, c'est simple, ils avaient 5 minutes et ils se sont dit, si on se relève et qu'on attend, on n'a plus que 3 minutes. Donc on va avoir moins de temps qu'on en a maintenant, donc on continue. Ce qui est une erreur psychologique importante, c'est-à-dire que si vous avez 5 minutes et que vous attendez, vous vous retrouvez à 3 minutes, en règle générale, le peloton va vous laisser en reprendre 5. Mais pendant ce temps-là, vous avez économisé du glycogène.
Alors il faut savoir aussi que beaucoup d'équipes de sprinteurs n'ont pas été servies aussi depuis le départ de ce Tour de France. C'est pas le cas évidemment de la formation de Cavendish qui en a remporté 4 à lui tout seul. Mais les équipes de sprinteurs voient le Tour de France, la fin de ce Tour de France approcher. On pense évidemment à l'équipe de Greipel, on pense aussi à l'équipe de Brian Cockart, Direct Energy. On pense aussi à la Katusha d'Alexander Christophe. Et il faut aller chercher une victoire d'étape. Donc on ne peut pas laisser les échappés remporter cette étape, Jérôme.
Non, c'est sûr, il fallait absolument un groupe de au moins une dizaine d'unités pour aller espérer chercher la victoire ici, parce que derrière, comme tu le dis si bien, Christophe, il y a beaucoup d'équipes de sprinteurs qui sont encore bredouilles, et qui dit bredouille dernière étape aujourd'hui de possibilité de gagner avant les champs. On sait que les champs, tout le monde et tous les grands sprinteurs veulent gagner sur les champs, et notamment Mark Cavendish. Ensuite le profil du final correspond à certains coureurs et pas à d'autres, notamment Greipel qui pourrait peut-être profiter de cette légère montée pour essayer de de faire le meilleur résultat qu'il ait fait depuis le départ du Tour, mais il va falloir la bonne cuisse quand même. Donc on n'a pas trop vu encore les lotos Soudal mettre le train en place comme ils ont l'habitude de faire. Peut-être ce sera pour aujourd'hui, mais il est clair que c'était la dernière occasion. Les baroudeurs aussi avaient une occasion de s'exprimer aujourd'hui. Ils ont laissé partir ce duo à la Philippe Martin très vite, très tôt. Personne n'a suivi ce coup-là et au final on va assister à un sprint, voire peut-être un final débridé, parce que on le rappelle, le final n'est pas tout plat.
On va en parler justement de ce final. Alors il faut savoir aussi, tu le disais, c'est la dernière occasion pour les sprinteurs de briller, mis à part la dernière étape sur les Champs-Elysées, parce que les quatre étapes qui nous attendent à partir de mercredi vont être particulièrement redoutables, avec beaucoup d'arrivées en ascension. Ce sera le cas à Fino et Mosson, ce sera le cas à Megève avec le contre-la-montre individuel. Saint-Gervais également pour la 19e étape, Albertville Saint-Gervais, et puis Megève-Morzine, voilà, qui sera la
Megève Morzine et Megève-Morzine
en descente.
Attention, avec attention, messieurs les sprinteurs, parce que Megève-Morzine avec le col des Aravis très très tôt, puis celui de la Colombière, et surtout l'enchaînement Ramaz-Jouplane, ça peut faire très mal.
Est-ce que le col de la Ramaz sera
le col de la Ramaz qui a été enlevé du parcours de l'étape du Tour sera au programme
pour
le Tour de France, et donc
il était parti
danger pour les sprinteurs, parce que sur les routes, sur les montées de la Ramaz et sur la montée de Jouplane, on perd énormément de temps. Et pas sûr qu'on ait tous les sprinteurs sur les Champs-Elysées à Paris.
Voilà, Jouplane, c'est 11 km 600 à 8,5% de pente moyenne.
Ce sont les deux cols pratiquement les plus difficiles des Alpes, et ils sont les deux dans la même étape. C'est très très difficile et c'est pas du gâteau pour les Cavendish, les Greipel et les Kittel. Ils vont pas passer une très bonne journée cette journée-là.
C'était l'ennemi juré de Lance Armstrong, le col de Jouplane, que l'Américain n'a jamais réussi à dompter. Il lui est toujours arrivé quelque chose
Il arrive souvent en fin de Tour de France. D'ailleurs, en sortie des Alpes, puisque derrière Morzine, on voit souvent la Tour Eiffel du haut de ce col de Jouplane. Allez, 26 km 700 avant la fin de cette 16e étape, Fred, et l'avance qui continue de se réduire pour les deux hommes de tête.
Avec effectivement Tony Martin, la moto allemande de la formation Etix Quickstep, qui emmène son équipier Julien Alaphilippe, le jeune puncher français de 24 ans. Ces deux-là sont au pied de l'unique difficulté de la journée, la côte de Mühleberg, l'avance des deux hommes de tête n'est plus que de 37 secondes sur un peloton qui n'aura pas débranché de la journée, car il ne fallait pas laisser plus de 6 minutes d'avance écart maximal qu'a compté ce duo de tête. Il ne fallait pas leur laisser trop de marge, c'est ce que se sont évertués à faire les équipes de sprinteurs. Et pour l'instant, Tinkoff, Direct Energy, Cofidis ou Katiusha sont en train de parvenir à leur fin. On est dans l'ascension de la seule côte du jour. On va voir si Tony Martin parvient à résister et si Julien Alaphilippe est la carte maîtresse du duo de l'équipe Etix Quickstep dans le final. S'il doit partir, c'est peut-être maintenant. Julien Alaphilippe qui aime ses petits coups de cul, un coup de cul placé à 25 km de l'arrivée. Pour l'instant, c'est toujours le rouleur allemand qui emmène son équipier français dans la roue.
Il va quand même pas faire la misère à son coéquipier là, il va pas le planter là à combien, à 25 km de l'arrivée, Jérôme?
Non, il s'écarte d'ailleurs, Julien Alaphilippe à l'instant s'écarte, et c'en est fini pour le Français. Il a congratulé son équipier Tony Martin tout à l'heure, une tape dans le dos. On sait très bien pour ces deux hommes-là que c'est fini, que le peloton va revenir très vite et c'est la fin de la belle aventure. Si Kittel ne gagne pas aujourd'hui ici à Berne, ça va grincer dans le bus Etix et je suis content de ne plus y être.
Ça va souffler Kittel, dans les bronches.
Kittel, le coéquipier effectivement de Tony Martin et Julien Alaphilippe. Alaphilippe qui s'est garé sur la gauche de la route. Seul Tony Martin insiste au passage au sommet bientôt de cette côte de Mühleberg. Tony Martin qui ne compte plus que 30 secondes d'avance sur le peloton, un peloton qu'il aperçoit évidemment, et Tony Martin qui reste parfaitement calé sur sa selle, qui ne se met jamais en danseuse. C'est la machine allemande qui est en route depuis le départ de Moirans-en-Montagne ce matin.
Et la moto RMC a dû repasser devant les échappés, ou plus exactement devant l'échappée, puisqu'il n'y a plus que Tony Martin devant, et devant lui, eh bien la moto RMC, Georges.
exactement dans cette côte de Mühlberg. Tony Martin qui est désormais seul. On les a doublés il y a quelques minutes, les deux hommes qui étaient encore ensemble, et on voyait clairement que Julien Alaphilippe était au point de rupture. Il avait la langue dehors, le français, dans les premières pentes avant d'arriver sur cette seule difficulté répertoriée. Avec le, il voyait derrière lui, il s'est retourné et il a vu l'avant-garde du peloton qui se rapproche de plus en plus. Donc il va avaler Julien Alaphilippe dans quelques instants, et certainement Tony Martin peut-être au sommet de cette difficulté. Ensuite il n'y a pas de grosse descente, c'est un long replat pour le Panzer qui l'attend dans les hectomètres qui arrivent.
Et Florian, sous le hashtag RMC Live, nous dit c'est bon pour le contre-la-montre pour les Jeux Olympiques de Rio dans 3 semaines pour Tony Martin, qui sera l'un des favoris pour aller décrocher une médaille d'or. Il y en aura d'autres à surveiller évidemment, notamment Tom Dumoulin, hein, Fred, qui a montré de très belles choses. Fabian Cancellara aussi voudra peut-être quitter la carrière avec un beau titre olympique, lui qui a déjà remporté un titre, c'était à Pékin je crois, hein.
Oui, Fabian Cancellara qui c'est vrai en termine à domicile aujourd'hui, on le rappelle, Fabian Cancellara qui va trouver un final à sa convenance. On en parlait tout à l'heure, le vétéran suisse âgé de 35 ans, coureur de l'équipe américaine Trek. On ne roule pas à l'avant du peloton en faveur de Fabian Cancellara. Les Trek sont trop occupés à préserver les intérêts de Bauke Mollema. Mollema qui, on vous le rappelle, est le dauphin de Christopher Froome au classement général. Du coup, chez Trek, on n'a pas complètement joué la carte Fabian Cancellara. Cancellara qui connaît par cœur les routes sur lesquelles évoluent en ce moment les rescapés du Tour de France. Et Cancellara qui trouvera donc dans la traversée de Berne un passage pavé, des côtes qu'il est capable de passer. Mais pour l'instant, depuis le départ de ce Tour 2016, on n'a pas encore vu un grand Spartacus qui tirera sa révérence, qui prendra sa retraite à la fin de la saison et qui dispute donc l'une de ses toutes dernières étapes sur le Tour de France. Une épreuve où, rappelons-le, il a déjà porté le maillot jaune et il a remporté 7 étapes, lui qui a remporté 3 Paris-Roubaix et 3 Tours des Flandres, 1100 Remo et 4 titres de champion du monde du contre-la-montre. L'autre monsieur contre-la-montre dans le peloton en ce moment, c'est Tony Martin qui continue à faire de la résistance. 15 secondes d'avance pour Tony Martin, alors qu'à l'arrière, Julien Alaphilippe a été devancé par le peloton.
On voyait à nouveau 2 ZX Quickstep, mais là ils sont à l'arrière de la course et c'est Julien Alaphilippe accompagné de l'un de ses équipiers.
Ce n'est pas Julien Alaphilippe, c'est Marcel Kittel qui est attardé. Attention, il n'a pas passé la côte de Mühlberg, il est accompagné
Julien Vermotte.
Parce qu'on a vu Julien Alaphilippe aussi retardé il y a quelques instants en queue de peloton, se faire avaler par le peloton, mais effectivement c'est pas lui.
C'est Ilio Kais qui emmène Marcel Kittel, comme quoi vous avez vu que chez Quickstep on arrive à mettre des hommes à l'avant et à garder un ou deux hommes aux côtés, au soutien de Marcel Kittel qui aura du mal quand même à arriver ici avec les meilleurs sprinteurs, parce que le final est particulièrement escarpé.
Voilà, une image qui ne va pas plaire au big boss d'Etix, Patrick Lefebvre.
Ah non.
Ça va vraiment pas être la joie ce soir.
Ça va pas être la joie parce que ça signifie que Marcel Kittel sera forcément en difficulté dans la dernière petite ascension dans le final, et donc aucune chance de victoire pour cette équipe Quickstep. On a gâché la chance à Alaphilippe en faisant ce numéro, cette échappée à deux, et puis on est en train de perdre Marcel Kittel. Donc chez Etix, ce sera pas la joie ce soir.
Voilà, il y en a trois maintenant. Ils sont trois désormais de la formation Etix Quickstep, retardés à l'arrière du peloton, puisque Julien Alaphilippe a lui aussi été lâché par ce peloton. Donc trois. Ils étaient deux devant tout à l'heure, ils sont trois derrière maintenant. Et il y a quand même encore un devant, mais pour 12 secondes seulement.
La roue tourne effectivement dans le vélo encore plus qu'ailleurs peut-être. Tony Martin est à l'avant avec 10 secondes d'avance sur le peloton. Sa longue fuite en avant est en train de s'achever, et derrière effectivement Julien Alaphilippe est déposé par le peloton au même titre que Ilio Kais et Marcel Kittel, vainqueur d'étape, on vous le rappelle, à Limoges en première semaine pour un boyau devant Brian Coquart à l'époque. Ce sera très très compliqué pour Marcel Kittel aujourd'hui de sprinter.
Ils ont le sens de l'encerclement.
Ils encerclent le peloton, effectivement. Marcel Kittel qui a peut-être pété justement en raison du rythme imprimé par ses coéquipiers à l'avant de la course tout au long de l'étape.
Très, très bonne remarque, Christophe.
On est à plus de 46 de moyenne. Kittel, à la vitesse où on a passé les balles, les bosses, il pouvait pas s'en remettre dans le final. Hein.
Tony Martin, pour qui c'est terminé, qui se relève, le rouleur allemand à 22 km de l'arrivée. Le peloton est en file indienne et deux coureurs viennent de sortir. Il y a là un Astana, un coureur de l'équipe de Fabio Aru et Vincenzo Nibali. Il me semble que c'est Alexei Lutsenko, le coureur kazakh, qui est un super talent kazakh qui a brillé notamment sur les routes du Tour de l'Avenir il y a quelques années. Il emmène dans sa roue Thomas Vauclair. Ces deux hommes-là ne comptent qu'une toute petite avance d'à peine 10 secondes. C'est très très dur de sortir du peloton. Un peloton désormais emmené par les Dimension Data, les coéquipiers de Cavendish, qui attendaient de passer cette côte de 4e catégorie pour venir se mettre à la barre du peloton. C'est parfaitement joué de la part de l'équipe sud-africaine. On prépare une arrivée au sprint à 22 km de l'arrivée.
Alors que Tony Martin salue la caméra, il est content de ça.
Il attend Kittel.
Il attend Kittel. Ils vont être 4 désormais de la formation Etix à l'arrière. Il en reste plus beaucoup dans le peloton.
Aujourd'hui, en termes de présence dans le petit rectangle, c'est-à-dire sur l'écran de télévision, ils ont fait le plein de secondes. Hein.
Exactement. Puis en plus, on les a cités tout au long de l'étape. Allez, on va se quitter quelques instants, laisser passer les infos de 17h et revenir pour le final de cette 16e étape finale, un peu mouvementée. On va vous en parler dans quelques instants, juste après les infos.
RMC Intégral Tour.